La gauche dit, j'en reparle beaucoup dans ce livre, ça fait partie d'une des théories sorties dans les années 60. La gauche américaine a inventé cette petite phrase, le personnel est politique et le politique est personnel. Et oui, c'est vrai, dans un sens. Il suffit de voir les gens que les présidents américains ont appelés autour d'eux. Alors jusqu'à quelqu'un comme George Bush, c'était des gens en général sortis, des hauts fonctionnaires, des gens très éduqués, très, très convenables dans leur présentation, très conformes. Depuis Obama, c'est plus la même chose. Obama a invité autour de lui beaucoup de gens qui étaient très, très, très à gauche, bien entendu, et qui sortaient des normes, déjà, enfin des normes traditionnelles déjà. Avec Trump, première manière, Trump 45, puisque maintenant c'est Trump 47, eh bien, c'était déjà un peu. Enfin, il avait transigé. Et d'ailleurs, les gens qu'il avait pris dans les administrations, beaucoup l'ont poignardé dans le dos. C'est pour ça qu'il y a eu tellement de renvois, qu'il y a eu tellement de. Bon, il a été. Et donc, il n'a pas réussi dans son premier mandat. Il n'était pas aidé par les républicains non plus. Il n'a pas réussi à faire une de ses promesses électorales qui était de liquider le marécage, c'est-à-dire l'État profond. Alors, l'État profond, j'en parle dans mon livre, puisque c'est la cause de la guerre culturelle, en fait. Et l'État profond, c'est la guerre de 100 ans de l'Amérique. C'est-à-dire que il y a plusieurs années clés. L'année 1913, c'est l'année Woodrow Wilson venait juste d'être élu, progressiste, le premier président progressiste, c'est-à-dire s'abreuvant aux thèses de l'État bismarckien, l'État-providence bismarckien. Et donc, tous les intellectuels de l'époque, progressistes, étaient d'accord, il fallait instaurer un impôt sur le revenu. Donc l'année 2013, il y a eu ça qui était capital. Il y a eu également la Banque fédérale. Enfin, l'année 2013 est vraiment une date clé dans la guerre culturelle. C'est pratiquement le début de la guerre culturelle. Et le début de l'État profond. Puisque, avec l'État-providence, se sont créées, les unes après les autres, les fameuses agences gouvernementales, comme on les appelle. C'est-à-dire que ce ne sont pas simplement des ministères. Ce sont des agences qui ont été créées, comme l'EPA, qui est l'Agence pour la protection de l'environnement. Ça, c'est beaucoup plus récent. Mais ce genre d'agence. Et donc, il se trouve que ces agences, au départ, ça partait d'un bon sentiment. Mais au fil des décennies, pas des années, mais des décennies, au fil de ces 100 ans de guerre culturelle, eh bien, elles se sont toutes gauchisées. Et Margaret Thatcher avait eu cette phrase amusante en 1999. Elle a dit, c'est incroyable. Tout ce qui se crée en politique et en société, tout à l'expérience finit par se gauchiser. Elle parlait donc des gouvernements, elle parlait des hommes politiques, elle parlait des agences gouvernementales, elle parlait des institutions. Et elle avait raison, on est obligé de constater que tout ce qui a été créé pour être une bonne chose, finalement, au bout de quelques temps, eh bien, il y a une déviance et ça finit par se gauchiser extrêmement. Alors, le personnel, c'est la politique. Trump s'est entouré, effectivement, de gens qui, cette fois-ci, sont en premier. Leur première qualité, c'est d'être loyaux vis-à-vis de Trump. C'est-à-dire qu'il ne veut plus être poignardé dans le dos comme il l'a été par Bolton. Il n'a pas été poignardé par Pompeo, mais Pompeo, que moi j'aimais beaucoup, j'aime toujours beaucoup, Pompeo a eu le tort en 2020 de dire que oui, il avait perdu l'élection contre les faits. Et en 2021, le 6 janvier 2021, de croire que Trump avait exhorté la foule à une insurrection, qui en fait n'était pas une insurrection. Et tous les commentateurs de télévision en France que vous écoutez sont persuadés, durs comme fer, que et Trump, l'élection ne lui a pas été volée, et que deuxièmement, le 6 janvier, il y a eu une insurrection. Ils ne savent pas ce que c'est qu'une insurrection au sens américain. Il faut d'abord être armé, or aucun n'était armé, déjà. Et deuxièmement, il n'y a pas eu insurrection. Et on a toutes les preuves. Et les preuves, elles sont déjà sorties. Et si Trump a été réélu triomphalement en novembre dernier, eh bien c'est parce que le peuple américain sait tout ça, s'est renseigné. Et alors, le personnel politique, donc Trump s'est entouré de gens, ils ne me ravissent pas tous, certains oui, certains moins que d'autres. Moi aussi, j'ai trouvé que Pete Hegseth, qui est quand même ministre de la Défense, je trouvais que son bagage était peut-être un peu court pour... Mais bon, j'ai probablement tort et il faut faire confiance. Et certains autres sont plus... Dan Bongino, qui justement est pris aussi, lui, à la défense. C'est pareil, j'aurais jamais pensé à lui. Mais bon, il faut s'ouvrir à l'idée que ces gens sont après tout qualifiés et en tout cas ne trahiront pas le président. Ce qui est, je le répète, la première qualité. Alors Trump s'est attaqué, c'est là où c'est un miracle, parce que, enfin miracle, où c'est véritablement jubilatoire et où ça nous fait rêver, nous autres Européens, parce qu'on en est très 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 loin. Trump s'est attaqué en premier aux quatre piliers du wokisme que je décris dans ce livre. L'immigration, promesse électorale, tout de suite. Et Tom Homan, qui est on l'appelle le tsar à l'immigration, c'est-à-dire que c'est un poste qui ne nécessitait pas de confirmation sénatoriale. Le président des États-Unis a le droit de nommer qui il veut pour certains ministères et qu'il veut également, et il peut être, on peut lui refuser certains. Il avait nommé pour être à la justice, il avait nommé, son nom m'échappe maintenant, qui a failli faire capoter la Chambre. Son nom me reviendra. Mais bon, il a pas voulu avoir d'échec. Il a mis à la place Pam Bondi, qui a tout de suite été acceptée. Il a réussi jusqu'à présent. Il n'y a pas eu de refus. Il a réussi à faire accepter tout son monde. Et il faut dire qu'il était aidé en cela par une chose très simple, c'est que si on lui avait dit non, mais cette femme ou cet homme ne peut pas convenir, il n'a pas ceci, pas cela, la réplique était facile. Les républicains pouvaient dire « Ah bon ?» Et il a bien fallu que nous acceptions Sam Brinton. Tout le monde se rappelle Sam Brinton avec son tutu, son rouge à lèvres et son crâne rasé. Le major Levin, né Richard, devenu Rachel Levin, qui était avec ses bas de contention, son petit chignon et puis son uniforme. Bon, il a fallu accepter tout ça. Il a fallu accepter des gens qui avaient été choisis uniquement sur une question identitaire et non pas sur leur capacité réelle. Donc là, les républicains étaient un petit peu sur du velours parce qu'ils avaient un argument de choc au cas où ça aurait coincé. Cela dit, on a bien remarqué pendant les auditions au Sénat que les mêmes questions revenaient tout le temps. Vous ne contestez pas que Joe Biden a été élu en 2020, n'est-ce pas ? Vous ne contestez pas. Et vous ne contestez pas qu'il y a eu insurrection. Alors, pour le redemander pratiquement à chaque candidat et avec autant d'insistance, déjà, je trouve que ça devrait mettre la puce à l'oreille. Et alors, ils sont tous assez bien tirés. Ils n'ont pas dit non, on conteste pas. Ils ont dit... Joe Biden a été président de telle époque à telle époque. Bon, ils ont éludé. Voilà. Mais c'était quand même quelque chose qui m'a frappée pendant les auditions. Alors donc, Trump s'est attaqué à l'immigration. Son tsar de l'immigration, Tom Homan, le soir du 20 janvier, n'était pas n'était pas au Capitole, puisque vous savez qu'en raison des intempéries, le discours d'investiture a eu lieu au Capitole, dans l'enceinte du Capitole. Tom Homan, lui, était déjà sur la frontière, non pas sud, mais la frontière du Canada, qui est aussi poreuse que la frontière sud, parce que Justin Trudeau et le gouvernement canadien ont absolument laissé faire. Et l'immigration chinoise, beaucoup d'espions chinois sont passés par le Canada, justement, et se déversaient aux États-Unis. Et Tom Homan était justement sur la frontière ce soir-là. Donc, il y a eu, jusqu'à présent, en immigration, il y a eu des milliers d'illégaux arrêtés, évidemment, en priorité, ceux qui se sont mal comportés, puisque, comme vous le savez, il y a quand même eu des meurtres dus à des invités de Biden et de Kamala Harris. Et il y a, jusqu'à présent, il y a eu une seule loi de voter dans le premier mois et demi de Trump, qui s'appelle le Laken-Riley Act, du nom d'une jeune femme qui était étudiante pour devenir infirmière. Elle n'avait que 22 ans. Elle est allée faire son jogging et malheureusement, elle a rencontré un immigré illégal et ça ne s'est pas bien passé pour elle. Elle a lutté. On a retrouvé sous ses ongles l'ADN du tueur. Mais malheureusement, bon, cette jeune femme est morte. Et à chaque manifestation nationale, comme c'était le cas avant-hier soir de nouveau au Capitole, Trump rend hommage aux victimes des illégaux. Et c'est une très bonne chose parce que il faut bien comprendre que, en plus de tout ce qu'il était en train de faire, il veut restaurer, il veut non seulement un retour à la normalité, à la décence et au bon sens, mais c'est aussi un retour à la loi, à l'ordre et à la Constitution. Parce que depuis Obama, les États-Unis, véritablement, moi j'en ai un chapitre dans mon livre sur le sujet, sont en état de lawlessness, c'est-à-dire on suspend l'état de droit. Autrement dit, l'état de droit, c'est ce que moi, qui suis en ce moment au pouvoir, je décide, ou moi, l'état profond, je décide. Et les mêmes que vous entendez dire tout ce que Trump dit, c'est anticonstitutionnel, c'est illégal, c'est pas vrai. Ce sont eux qui sont en pleine illégalité et en pleine anticonstitutionnalité. Et Trump, il a beaucoup de défauts sans doute, mais personne ne peut véritablement argué du fait qu'il aurait violé une loi constitutionnelle ou la loi tout court. Et non, vraiment, il fait très très attention. Il a une armée d'avocats juridiques autour de lui pour le conseiller, et c'est une chose à laquelle il fait effectivement très attention. Et donc, c'est non seulement un retour au bon sens et à la décence élémentaire, mais c'est un retour à la loi et l'ordre, et à la Constitution. Alors donc, dans l'immigration, ça se passe bien. Un décret exécutif, ça ne suffit pas. Comme pour tout le reste, il faudrait maintenant qu'il y ait une loi. Et pour l'instant, le Congrès a une chambre, il y a une voix de majorité à la Chambre, je crois, et trois voix de majorité au Sénat. Donc c'est très court, et il faut arriver à obtenir des lois. Parce qu'autrement, eh bien, tout cela pourrait s'effacer comme un château de sable, à la marée montante. Pour la race, Trump a décidé, sitôt arrivé, et ça, c'est contre. Je parle longuement dans mon livre de Christopher Caldwell, qui a écrit un livre sur ce qu'il appelle la deuxième constitution américaine, c'est-à-dire le Civil Rights Act, la loi sur les droits civiques de 1964. Pareil, une loi qui était effectivement pour mettre fin à la ségrégation qui perdurait dans le sud des États-Unis. Mais cette loi, Margaret Thatcher avait raison, cette loi, née d'un bon sentiment, a dévié et est devenu le prétexte pour créer de faux droits, les droits des trans, des faux droits à chaque instant. Et donc, en même temps, en matière de race, il y a toute une foule de concepts woke qui ont été créés sous Obama et affinés sous Biden. Il y avait ce qu'on appelle la critical race theory. C'est une invention française, ça, hein, européenne en tout cas, qui a été adoptée par l'Université de Columbia aux États-Unis. Et je mentionne très souvent dans mon livre la proximité entre l'Université de Columbia et notre Sciences Po à Paris. Et c'est amusant parce que Pompeo n'a pas eu de poste dans l'administration de Trump 47, mais en revanche, il vient d'être nommé président de l'Université de Columbia. Et ça, c'est très intéressant parce qu'il pourrait remettre cette université à l'endroit. Et il y a du travail à faire parce que ça a été la première véritablement contaminée par les idées de gauche, et bien avant les années 60. Alors donc, pour la race, Trump s'en est déjà occupé. Pour toutes les folies sexuelles transgenres, là, en ce moment, il y a la Chambre des représentants a réussi à concocter un projet de loi pour que les trans n'aient plus le droit de se doucher ou de se changer dans les vestiaires féminins, et n'aient plus le droit non plus de participer dans les compétitions sportives féminines. Et là, pour ça, il faut toucher au Title IX qui a été voté, je crois, en 1971 sous l'administration Nixon. Et ça requiert malheureusement les deux tiers des sénateurs. Donc jamais ils auront les 60 voix. Et c'est un vrai problème parce que l'Amérique et même les démocrates, l'Amérique à 70 ou 80% est tout à fait d'accord pour que les hommes n'aient plus le droit, même s'ils ont mis un tutu, même s'ils se sont fait mutiler, ils sont toujours des hommes, ils n'ont pas le droit de faire ce qu'ils font. Et bien ça, la gauche, là, est véritablement arc-boutée. Alors, la raison, ça serait que, bon, ils ont des avantages. Il y a des lobbies très, très riches homosexuels, pas seulement homosexuels, mais transsexuels ou transgenres, ou enfin toute la soupe alphabétique LGBT, plus, voilà. Ces gens-là sont soutenus, non seulement par Soros, mais par d'autres milliardaires rouges, aux poches très profondes, qui sont les lobbies transgenres, homosexuels, etc. Donc, tous ces gens-là, Trump s'en occupe, et il essaie également, sur le plan économique aussi, de renverser dans toutes les administrations, dans toutes les institutions, à l'université, il l'a fait à l'école, maintenant il essaye dans l'université, il essaye de renverser toutes ces politiques DEI, c'est-à-dire diversité, équité, inclusion, et ESG, environnement, social, gouvernance mondiale, verte. Voilà. Donc ça c'était les deux folies de la gauche. Les deux sigles qui couvraient les théories, qui régimentaient absolument tout, de l'université jusqu'au cabinet d'avocats, partout, c'était véritablement le mot d'ordre national et fédéral. Voilà, c'est telle politique, et votre personnel doit l'accepter, et vous devez faire comme ça, et engager ou licencier en fonction de ces critères. Donc Trump arrive et bouleverse tout cela. Alors, dans la pratique, il y a aussi une chose qui est intéressante, c'est Trump s'en prend également à l'absurdité sur le climat. Et hier, à Radio Courtoisie, je recevais le professeur Furfari, qui a écrit un livre, un de plus, parce qu'il y a déjà maintenant une liste longue de livres qui dénoncent l'imposture climatique. Et donc, Trump, lui, s'attaque à l'Agence environnement pour la protection de l'environnement. C'est pas qu'il est contre la protection de l'environnement, mais il est contre toute cette inflation normative que les écolos, sous quelque climat que ce soit, nous imposent. Et donc, et enfin, à la santé, il a mis quelqu'un, et ça c'est très simple, c'est plus important pour l'Amérique que pour nous, parce que nous sommes quand même apparemment un petit peu en meilleure santé. Mais il a fait entrer dans son cabinet, comme vous le savez, des gens qui l'ont soutenu pendant sa campagne, donc il fallait les récompenser, mais il les surveille, et il est d'accord avec ce qu'ils feront. Alors il est d'accord avec Musk. Musk est à la tête de ce petit ministère qui s'appelle le ministère de l'efficacité gouvernementale. Et Musk a son propre personnel. Il a engagé des petits génies de l'informatique et en même temps des génies tout court. Et ils ont déjà déniché des quantités de choses absurdes et extrêmement dispendieuses. Et Musk disait il faudrait que nous arrivions à économiser 4 milliards par jour pour arriver à... Bon, ils n'arriveront pas à éponger la dette qui est colossale, mais au moins la réduire. Je passe assez vite là-dessus parce que je pense que ça, vous pouvez en entendre parler. Alors, pour la santé, ce que veut faire Kennedy, c'est très bien de sa part. Non seulement il veut revenir sur toutes les folies qui ont été imposées par le Covid. Et à propos du Covid, Doge, l'agence de Elon Musk, s'en prend à toutes ces mauvaises manières qui ont été adoptées pendant le Covid et qui perdurent. Les gens qui travaillent en pyjama de chez eux ou qui ne travaillent pas du tout. Et d'ailleurs, nous en Europe, on en sait quelque chose. Essayer de trouver une entreprise ouverte un vendredi après-midi. Nous, en plus des 35 heures, on a adopté les mesures Covid. Alors, vous imaginez. Donc, Trump s'en prend à tout ça. Alors, Ted Kennedy Jr., il avait un rêve, et bien, il est en train de le réaliser. C'est de s'en prendre à la nourriture, et ça je suis d'accord avec lui, la nourriture qui est véritablement dangereuse aux États-Unis. Les gens qui ont très peu de moyens, il y a des quartiers noirs, paraît-il, où vous ne trouvez pas de produits sains à acheter. Vous ne trouvez que des trucs véritablement processed food, ça s'appelle en anglais. Je ne sais pas comment traduire ça en français. C'est vraiment de la nourriture trafiquée. Tout est piège. Donc ça, c'est une très bonne chose. Il s'en prend également aux outrances qui ont été décidées pendant le Covid. Et il va s'en prendre à quelque chose que nous ne connaissons pas chez nous, ou en tout cas beaucoup moins, à tous les problèmes de santé que subit la jeunesse américaine, non seulement à cause du fentanyl, parce que là, c'est véritablement c'est 100 000 morts par an, je crois, aux États-Unis, mais les problèmes d'autisme, d'obésité, bien sûr, et tout ça, et tous les médications absurdes qui sont données aux enfants. et notamment aux garçons trop actifs. Ça, on le sait, depuis le, comme le Ritalin. Voilà. Et donc, il y a énormément de bonnes choses qui se passent. Donc, miracle. Miracle de ce point de vue-là, oui, absolument. Et moi, il y a une autre chose aussi que... Alors, il y a le volet économique. Vous n'entendrez pas les télévisions françaises dire que Trump... ils sont tous contre les tarifs de Trump. Vous ne les entendez pas, aucun dire qu'en fait, Trump demande la réciprocité. Ce sont des tarifs visant à la réciprocité. Ce ne sont pas des tarifs punitifs. Trudeau répond, lui, par des tarifs punitifs. Au simple fait que Trump dit « nous ne sommes pas à armes égales. Vous autres Européens, vous avez en plus une TVA et vous nous comptez des droits de douane sur des produits, alors que nous, c'est tout petit ce qu'on vous demande. Il y avait pratiquement... » Donc, réciprocité, c'est ça qu'il demande dans un premier temps. Et on va bien voir si ça c'est plus long, l'économie. Il doit également arriver à réduire l'inflation qui s'est développée sous Biden. Donc il y a des choses très intéressantes aussi qui se passent en économie. Et je pense qu'il a une équipe économique très solide. Il a autour de lui Scott Bessent, qui est le ministre de l'économie. Il a, son nom m'échappe puisque je le trouve, il a des gens vraiment brillants et classiques, là. Bon, encore que Scott Bessent est un homosexuel, est marié et avec des enfants. Bon, mais Trump ferme les yeux là-dessus, il accepte quand même, il a arrêté la folie, mais il accepte quand même des choses qui ont été imposées par la gauche progressiste. Bon, apparemment, il y a des choses auxquelles on peut parvenir, et après tout, si ces gens, comme Scott Bessent, c'est son cas absolument, ont des qualités... On ne va pas ne pas les employer parce qu'ils sont homosexuels ou parce qu'ils ont ceci ou cela. Bon, ça ne doit pas venir. C'est vraiment les capacités qui comptent et l'efficacité. Alors, une dernière chose que moi je trouve véritablement enthousiasmante par rapport à ce qu'on a connu avant, c'est la transparence. Le style de Trump, il a guère changé, c'est le même. Mais ce n'est pas le même Trump quand même que qu'en 2016. Vous avez remarqué l'audace, et là je vais y arriver, l'audace dans sa vision géopolitique. Et c'est là où peut-être qu'il y a un risque. Mais en tout cas, une chose est certaine, c'est que le style est agréable parce que c'est la transparence absolue. Et moi, j'étais avec Orange et bon, je supportais pas qu'Orange n'est plus Fox News. Je suis allée chez Free, dont j'entendais pas de bien, mais au moins j'ai Fox News. Fox News a une chose, c'est qu'ils invitent non seulement des gens des deux côtés à parler, contrairement à toutes les autres télévisions, mais quand, et ça tombe bien pour nous le soir, parce que c'est chez eux l'après-midi, les choses importantes, ça se passe, donc ça se tombe pour nous le soir. Et donc vers 9 ou 10 heures du soir, tout d'un coup, un présentateur s'interrompt parce qu'il se passe quelque chose d'intéressant à la Maison-Blanche, ou alors parce que Caroline Leavitt, la petite jeune porte-parole qui a 27 ans, qui est mignonne comme tout et qui est extrêmement douée dans ce qu'elle fait, est là à répondre aux questions des gens. Et on a ça en direct. Vous aurez ça sur aucune autre chaîne. Aucune autre chaîne. Et hier soir, on avait... Le soir d'avant, on avait en direct aussi le discours qui n'était pas un discours de l'État de l'Union, mais qui y ressemblait, de Trump dans l'enceinte du Capitole une deuxième fois. Donc là, ils arrêtent tout, les programmes, et vous avez la politique en direct. Et ça, c'est quand même quelque chose d'intéressant, parce que Biden, c'était les gens qui tiraient ses ficelles, mais c'était l'opacité totale. L'opacité totale. Et là, c'est vraiment la transparence totale. Alors j'en viens maintenant au deuxième volet, et je vais faire vite, Henri. Il me reste combien de temps, un quart d'heure ?
20 minutes.
20 minutes, bon. Alors donc, on a un ouragan là, hein. On a le panache, l'audace, on a tout ça. Et bien entendu, il y a la gauche n'arrive pas à comprendre ce qui lui arrive. Mais rassurez-vous, je suis sûre qu'ils sont en train de s'organiser. D'ailleurs, il y a pas mal de procès qui sont levés contre les décisions de Trump. Et la Cour suprême, là, j'en profite pour dire quelque chose. J'ai entendu pas mal de commentateurs dire que, bon, de toute façon, Trump, il a le Congrès pour lui. Et en plus, il a la non, il n'a pas la Cour suprême pour lui. Absolument pas. La Cour suprême, d'abord, devrait être neutre. Et quand des présidents nomment des juges à la Cour suprême, et Trump en a nommé 3 dans son premier mandat, mais il a été poignardé dans le dos, là aussi, eh bien, Il les nomme pour ne pas être des juges conservateurs, mais pour être des juges constitutionnels, constitutionnels attachés à la Constitution et aux lois. Or, il se trouve que le juge Roberts, qui avait été nommé par George Bush en 2006, s'est vite avéré comme un juge félon et il prend côté, il prend parti pour toutes les causes de gauche. Et en plus, il déteste Trump. Et en 2020, quand il y a eu quand Trump a demandé que la Cour suprême décide, eh bien, Roberts s'est défié et la juge Amy Barrett, Coralette Barrett, s'est rangée du côté du président de la Cour suprême. Donc, en fait, la Cour suprême est très politisée, elle aussi, elle aussi. Et là, il y a simplement 4 juges qui viennent de dire, donc ils ont perdu, puisque les 5 autres ont gagné, il y a 4, les 4 juges sur lesquels Trump peut compter, ont dit, n'est pas normal que notre Cour suprême se mette en travers des décisions du président sur des choses qui ont l'adhésion de 70% de l'électorat. Alors donc, j'en arrive aux risques qui font que peut-être, la victoire culturelle pourrait nous échapper si Trump commet des erreurs. Alors, quelles erreurs pourrait-il commettre? Eh bien, il y a non seulement l'état profond se rebiffe aux États-Unis, mais vous avez vu le tollé général absolument partout. Dans l'Angleterre qui n'est plus avec l'Union européenne, dans l'Union européenne qui est égale à elle-même, bien entendu, qui jamais est capable de faire son autocritique. Eh bien, c'est un tollé général contre Trump, c'est une levée de bouclier contre Trump, et la gauche américaine fonctionne tout le temps en symbiose. La gauche américaine fonctionne tout le temps en symbiose avec l'Union européenne, et même et maintenant avec le Royaume-Uni de Keir Starmer. Donc, ce miracle pourrait-il vraiment arriver? Parce que Trump, le nouveau Trump, le Trump 47, il m'a surprise, comme tout le monde, il a une vision géopolitique que j'arrive pas encore à bien saisir. Alors, c'est très bien de vouloir aller, de revenir sur l'année fatale 1913 avec tout ce qui a été décidé, mais lui, il veut revenir plus loin. Il veut revenir à l'Amérique expansionniste du président Polk, du président McKinley et du président, pas plus expansionniste, mais en même temps Amérique assertive, Roosevelt, le premier Roosevelt. Et donc, qu'est-ce qu'il faut penser de Panama, du Green? Alors, Panama, je suis complètement d'accord. Jamais, jamais, les États-Unis n'auraient dû, pour une bouchée de pain, donner à un pays qui venait juste de se créer en 1903, donner le canal de Panama, qui a quand même été bâti, Trump le rappelle à chacun de ses discours, 38 000 travailleurs tués, qui ont péri pendant la construction de ce canal. Ça a été conçu, je le mets dans mon livre, par des ingénieurs français, mais aussi américains, réalisé avec l'argent de l'Amérique, qui a coûté, ça serait une fortune, aujourd'hui ça serait des centaines de milliards de dollars, peut-être même un trillion de dollars. Eh bien, donc, ce canal n'aurait jamais dû être mis. Et ça, c'est cet abruti de Carter qui a cédé à l'air du temps, et comme si c'était une colonie. Voilà. Donc là, je suis tout à fait d'accord avec Trump. Le Groenland, pourquoi pas? Parce que c'est la protection de l'Atlantique Nord. Et donc, avec la Chine et la Russie qui envoient de plus en plus de navires et de vols de reconnaissance dans la région, c'est pas une nouveauté. Ça fait depuis 20 ans que j'en entends parler. Le Groenland, le petit Danemark, ne protège pas bien le Groenland qui est plus gros que lui. Et donc, là, il y a une véritable question de sécurité pour nous autres Européens aussi, pas seulement pour l'Amérique. Donc là, il pourrait peut-être être décidé un protectorat. Enfin, il faut d'abord demander aux Groenlandais leur avis. Je pense que Trump ne fera pas de choses qui seraient répréhensibles du point de vue, qui ne seraient pas admises internationalement par eux. Il n'a que faire du droit international. Mais là, quand même, pour des choses comme ça, je pense que si, il fera attention, il fera très attention. Pour le Golfe d'Amérique, bon, ça y est, c'est déjà adopté. Il faudra s'y faire. Et enfin, pour Gaza, ça, c'est une idée lancée, on verra bien. Quant au Canada, il s'amuse à appeler Trudeau le gouverneur du Canada. Là, je pense que je ne sais pas s'il est sérieux, je ne crois pas. En tout cas, ce ne serait pas véritablement une bonne idée d'avoir le Canada, parce que le Canada est véritablement progressiste, c'est-à-dire de gauche. Et le Canada est complètement woke. Et même s'il y a une forte opposition à Trudeau désormais, eh bien, le Canada, malheureusement, est avec la gauche américaine et l'Union européenne. Donc ça ne serait pas un très bon acquis. Alors, j'en arrive à la politique internationale de Trump. On entend beaucoup parler en ce moment, depuis ce qui s'est passé dans le bureau ovale le 28 février dernier. C'était sidérant à voir. On parle beaucoup d'un nouveau Yalta. Alors moi, j'en sais rien. Je vais vous dire, franchement, je ne sais pas du tout. Est-ce que véritablement, mais ça, c'est les critiques contre Trump, Trump et Poutine seraient tous les deux, alors ça, c'est François Stom, deux hommes primaires. D'après qui d'autre, quelqu'un qui écrit dans l'IREF, ça serait c'est ignoble. Trump serait aussi ignoble que Poutine. Absolument ignoble. Ah, ce sont deux mafiosos, tous les deux. Ou deux mafiosi, je ne sais pas comment on doit dire. Enfin bref, voilà. Bon, la surréaction est telle qu'on la connaît. Alors moi, il se trouve que je suis toujours pour Trump, mais là, je suis désolée, ça ne va pas plaire à Isabelle Delataille, qui est là, qui est une grande amie de la Russie. Moi, je pense qu'on ne peut rien attendre de bon de la Russie avec Poutine. Je suis désolée, mais il a violé tous les traités de... Là, il se vante aujourd'hui d'avoir le plus d'armes nucléaires. Mais grâce à qui? Grâce à des présidents américains naïfs qui ont signé et réalisé unilatéralement le désarmement nucléaire, alors que la Russie a violé tous ses traités, SALT, SALT 1, SALT 2, etc. Donc il se retrouve avec le plus de têtes nucléaires. Et maintenant, il se permet de dire, voilà, moi j'ai la bombe nucléaire, et si ça ne vous plaît pas ce que je décide de faire là, ben moi je peux envoyer une bombe sur Londres ou alors une autre sur Paris. Rien que ce procédé, je suis désolée Isabelle, mais je ne peux pas l'accepter. Je ne peux pas l'accepter. Et en plus, bon, eh bien, il y a les rumeurs sur Vladimir Poutine. J'ai entendu hier soir Macron, je déteste Macron, mais j'étais obligée d'être d'accord avec lui sur certaines bribes de son discours. Quand même, tous les morts autour de Poutine, que ce soit des journalistes, que ce soit des hommes politiques, ça fait beaucoup quand même pour être un hasard. Et puis, quelle mort! Attention, si vous tombez de 10 étages ou alors d'un avion, ou alors vous prenez une tasse de thé, puis vous vous retrouvez à l'hôpital pendant des mois et des mois avec une drôle de maladie. Enfin, je suis désolée, mais on est quand même obligé d'avoir des réticences. Et en plus, le pire de tout, c'est qu'il y a, c'est une réalité, il y a un nouvel axe du mal qui est la Chine, la Russie, l'Iran, la Corée du Nord et tous les autres tyrannos. Et donc, et ils traînent derrière eux des gens qui, eux, ne sont pas dédicateurs, mais qui en même temps détestent l'Amérique et détestent nous autres Européens. Nous détestent tous, nous, Occidentaux. Ils ne font pas la différence entre Isabelle qui adore Poutine et moi qui ne l'aime pas. Ils ne font pas la différence entre des gens qui détestent Trump, comme on voit la rédaction de LCI le soir, c'est incroyable. Ils ne font pas la différence entre les Brexiteurs. Ils ne font pas de différence. Pour nous, pour eux, on est l'Occident, on ne vaut rien, on est décadent, etc., etc. Et de toute façon, ils en ont marre de nous, ils ne peuvent plus nous voir en peinture, et voilà. Et alors, on se trouve maintenant à un point, et je vais terminer là-dessus, où il y a un divorce profond entre l'Amérique profonde et ce qui se passe chez nous en Europe, et toujours, comme je vous le dis, avec la gauche américaine. Eh bien, les Américains, moi j'en parle assez longuement dans ce livre, là, depuis le 11 septembre, et depuis l'invasion en Irak, qui s'est révélée malheureuse, comme celle en Afghanistan, qui s'est révélée malheureuse aussi, et la débâcle d'Afghanistan de 2021 de Joe Biden était une horreur, et a donné des bonnes idées à Poutine. Et Poutine s'est dit, mais c'est le moment pour moi d'y aller. Non seulement en 2014, avec l'idole Obama, qui n'avait rien fait, il avait pu prendre la Crimée, mais là, avec Biden, enfin, ceux qui tiraient les ficelles de Biden, il était tranquille aussi. Donc là, on se trouve avec une Amérique profonde qui se dit, et ce n'est pas les inventions de Trump. Trump ne fait que reprendre ce que il pense comme eux, mais il reprend ce que l'électorat américain, depuis, j'en parlais déjà dans le Tea Party, pense déjà depuis longtemps. Mais qu'est-ce que c'est que ces alliés européens que nous avons là ? Ils nous coûtent cher, c'est nous qui fournissons toutes les dépenses. Quand il y a des guerres, c'est nous qui les prenons. On est allé en Bosnie et en Serbie, ça ne leur a pas plu. Ils nous disent qu'on les a attaqués, mais on n'a rien attaqué du tout. On a voulu ne pas... L'idée primordiale des Américains, c'est pas de troisième guerre mondiale. On a déjà donné deux fois, on ne va pas supporter que les Européens, à cause de leur magouille entre eux ou de leur sottise, nous imposent une troisième guerre mondiale. Donc il faut comprendre les deux côtés. Il faut vraiment comprendre les deux côtés. Et hier, j'avais un invité à Radio Courtoisie qui attaquait, qui était complètement du côté, qui disait l'OTAN a attaqué la Serbie et le Kosovo. Non, ils n'ont pas attaqué. L'OTAN est une organisation de défense. C'est tout. L'OTAN n'a jamais attaqué personne. Et si l'OTAN est intervenue en Bosnie et au Kosovo, c'est parce que les Européens, avec tous leurs grands discours, leur suffisance et leur arrogance, n'arrivaient à rien du tout comme d'habitude. Donc on en est là, et c'est très très dommage que l'Occident soit divisé, et la guerre culturelle, elle perdure donc par ces groupes interposés. Donc est-ce que Trump va faire des bêtises ? Parce que, attention, c'est quand même une politique à haut risque qu'il essaie, non seulement chez lui, mais à l'étranger. Est-ce que c'est vrai qu'il est en train de faire un nouveau Yalta avec une Amérique puissante, une Russie puissante et une Chine très puissante ? Et moi, je vous parlais de cet axe du mal. Et si j'ai des doutes, et là, je suis en plein brouillard, comme tout le monde, si j'ai des doutes, c'est parce que cet axe du mal, ce n'est pas une chose récente. C'est depuis ce siècle, enfin, depuis que la Chine est entrée à l'OMC et qu'elle se croit tout permis. La Chine a, elle... Alors, on parle de mondialiste contre souverainiste, mais ce n'est pas si simple. Ces gens-là sont également des mondialistes dans leur genre à eux. La politique BRI, c'est-à-dire Belt and Road Initiative, qu'on appelle faussement les nouvelles routes de la soie, ça n'a rien à voir avec les routes de la soie. C'est une politique de ceinturage et de je t'attrape et tu ne peux plus en sortir de la Chine. Et la Chine est partout dans le monde entier. Donc vraiment là, c'est mondial, c'est global aussi. Et ils sont tellement accoquinés ensemble avec... la Chine, la Russie de Poutine, l'Iran, tous ces gens-là, ils ont tellement d'intérêts communs, ils ont une telle détestation, une telle horreur des États-Unis et de nous autres, que moi, je me dis, peut-être que Trump, là, il souffre d'une crise d'hubris, on peut comprendre, mais est-ce que donc il ne risque pas d'échouer sur sa politique étrangère ? Voilà, je terminerai là-dessus, sur une interrogation.
Merci, Evelyne Jostin, pour ce tour d'horizon, évidemment trop bref. Nous allons maintenant passer aux questions, au débat. Je voudrais moi-même poser une première question. Je rappelle que nous allons d'abord poser des questions, demander aux personnes qui sont dans la salle de poser des questions avant de lire les questions qui ont été ou qui vont être écrites sur Internet, soit sur le fil de discussion, le chat de YouTube, soit sur notre canal de discussion Telegram. C'est Maurice Seclin qui les lira. Première question que je poserai moi-même, chère Evelyne, Jocelyn, qu'avez-vous pensé du discours de Vance à Munich, à la conférence de sécurité européenne, le 14 février, je crois?
Oh, bon, j'en ai pensé du bien, évidemment, mais en même temps, j'ai été surprise et je reviens. Quand il a dit quand même le plus grave danger, ce n'est ni la Chine ni la Russie, c'est ce que vous faites à l'intérieur, il avait raison, oui et non, parce que c'est les deux, les dangers. À mon avis, les deux sont... Nous sommes presque autant que les États-Unis, nous sommes également envahis par la Chine. Elle est partout. N'oubliez pas quand même qu'elle a le port d'Hambourg, elle a le port du Pirée. Il paraît qu'elle a un port danois. Eric m'avait dit ça une fois. La Chine est partout aussi. Donc, J.D. Vance, c'est vrai ce qu'il disait, mais en même temps, il faut s'occuper des deux à la fois, l'ennemi intérieur et l'ennemi extérieur. Je suis désolée. Et donc, oui, son discours était intéressant parce qu'il était impertinent. Et surtout, ça venait troubler tous ces gens que je ne peux pas voir en peinture, qui sont les élites européennes et qui sont suffisantes, une fois encore, et qui ne se remettent jamais en question. Jamais, jamais, jamais. Et donc là, eh bien, quelqu'un les remettait en question. Donc, de ce point de vue-là, évidemment, c'était enthousiasmant.
Alors, deuxième question que je voudrais aussi...
Puis en plus, il est bel homme, hein. Il est très américain.
C'est l'Amérique profonde. Il a épousé une indienne.
Oui, je sais. Mais c'est l'Amérique profonde.
Une indienne telugu. Alors, donc, deuxième question. Ensuite, je laisserai la salle poser les questions. Ne croyez-vous pas que l'axe du mal passe par Macron en France et Sanchez en Espagne ?
Sanchez, je ne connais pas du tout.
Sanchez, c'est gratiné. Hein.
Non, mais attention, l'axe du mal, on parle de politique étrangère. C'est
le mal qui vous ronge de l'intérieur est presque pire que celui dont vous parlez.
Mais moi, j'en parle dans mon lit. C'est l'ennemi intérieur.
Je vous laisse la Corée du Nord et la Chine. Hein.
Oui. Il est bien évidemment que tous ces gens de gauche constituent l'ennemi intérieur. C'est absolument évident. Mais ce n'est pas la même chose que l'axe du mal dont on parle, qui est quand même un élément de politique étrangère et qui n'a rien à voir avec notre gauche et à droite à nous.
Bien, alors, Maurice, d'abord, dans la salle, y a-t-il des questions ? Levez la main, comme on fait à l'école, pour poser votre question, s'il y en a. Sinon, nous allons passer aux questions des auditeurs. Attendez, levez la main et attendez d'avoir le micro pour poser la question, pour que tout le monde profite de votre intervention.
Évelyne, c'est très intéressant. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'executive order qui concerne la religion chrétienne aux États-Unis ? Vous avez vu ça ?
Je ne sais pas s'il en a... Je sais que...
Alors je traduis l'executive order, c'est un décret. Hein.
Oui.
Un décret pris par le président.
Oui. Hein. Non, je ne suis pas au courant de celui-là. Je suis pas, j'ai pas les détails. Un détail que j'ai, par contre, qui est récent, c'est que le docteur Jay Bhattacharya, qui est le second à la santé de Kennedy Junior, a mis les choses très clairement au point. Nous ne ferons pas d'expérimentation sur des tissus, sur des fœtus et sur les tissus provenant des fœtus. Donc il y a quand même un élément moral qui est introduit et religieux. Voilà. Et nous ne ferons rien, a-t-il dit, qui puisse heurter les sensibilités religieuses. Pour le reste, je ne sais pas, Isabelle. Je ne sais pas tout.
Okay. Alors, si Isabelle ne veut pas poser une deuxième question, y a-t-il une autre question dans la salle ?
Je voulais simplement dire que là...
C'est... Attends, jamais de questions sans micro. On lève la main pour avoir le micro, et ensuite on pose la question dans le micro.
Excusez-moi, là c'est pas ça, ils voulaient protéger les chrétiens des attentats, etc. Donc c'est là-dessus, si vous voulez, qu'il porte son intervention.
Aux États-Unis ou à l'étranger ?
Aux États-Unis.
Parce qu'il a déjà pris pas mal de mesures pour les chrétiens en Orient. Mais je ne suis pas au courant de ce sujet-là précisément.
Ce décret,
j'ai pas de renseignements plus que vous là-dessus.
Alors s'il y a un auditeur qui peut nous renseigner,
il est avec tous les chefs religieux. Il est très très bien avec tous les chefs religieux aux États-Unis.
Vous pouvez intervenir non seulement pour poser des questions, mais même c'est éventuellement pour apporter une information qui nous aurait échappé.
Vous avez le droit de pas être d'accord avec moi.
Autre question, monsieur.
Bonjour, Marcel Perret. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'axe entre le Parti démocrate et la Commission européenne, l'Union européenne ?
Pour moi, c'est une réalité, mais je n'ai pas de preuves tangibles à vous apporter. Mais il suffit de regarder les télévisions le soir chez nous, ou regarder aussi, je pense que la télévision suisse, c'est pareil, j'y étais il y a quelque temps, c'était à peu près la même chose. En Angleterre, c'est pareil, Sky News, BBC, tout ça. Ils sont tous aux ordres de CNN et du New York Times. Et il n'y a que le Washington Post qui commence à avoir un discours un peu différent.
Grâce à Jeff Bezos. Qui s'est rallié pour des raisons fort intéressées.
Oui, exact. Oui, mais quand même. Et donc, cet axe, non, mais il est évident. Je veux dire, j'ai pas de preuves concrètes ou d'accord qu'ils auraient signé. Mais enfin, ils s'adorent les uns les autres. C'est une évidence. Et quand Biden était arrivé, moi j'avais regardé une émission à LCI, il y avait toute l'équipe du soir là, qui était là. Ah, l'Amérique est de retour. Maintenant, je suis désolée, ce n'est pas la vraie Amérique. Voilà. Mais tous ces gens-là, tous les gauchistes chez nous, adorent la gauche américaine.
C'est la même idéologie, le cosmopolitisme. Hein.
Oui.
Non, attendez, je rappelle qu'il faut un micro. Hein. Oui, vous l'avez, très bien. Rapprochez le micro 2.
C'est très possible, mais j'ai pas d'informations là-dessus. J'ai pas d'informations là-dessus. Ce que je sais, c'est que Starmer, l'été dernier, alors qu'on était en pleine campagne électorale américaine, avait quand même envoyé 100 personnes du Parti travailliste pour aider la campagne de Kamala Harris.
Je rappelle que Keith Starmer est le premier ministre anglais actuel, qui est le chef du Parti travailliste, Labour Party en Angleterre.
Et que Volodymyr Zelensky...
Pardon ?
Et le Premier ministre.
Oui, c'est ce que je viens de dire. Ouais.
Et que Volodymyr Zelensky, qui aurait pu être mieux inspiré, était allé lui aussi aider la campagne de Kamala Harris dans un État du Sud. Bon, alors maintenant, si Trump le reçoit pas bien à la Maison-Blanche, il y a des bonnes raisons. C'est que, bon, d'abord, il s'habille mal aussi. Puis quand il était venu à la cathédrale de Paris, je trouvais qu'il aurait pu également enlever son habit paramilitaire. Bon, enfin bref. Cela, vous me direz, le style. À la Maison-Blanche, il faut reconnaître que, et je suis pas d'accord avec les Américains là-dessus, ils acceptent parfois d'avoir quelqu'un qui a un chapeau sur la tête ou une casquette dans le bureau ovale ou à la Maison-Blanche. Je trouve ça grossier de ma part, enfin de leur part, mais apparemment c'est accepté ou toléré, je ne sais pas. Certains sont impeccables, et puis d'autres, eh bien, on tolère une mise. J'ai perdu le fil de la question qui m'était posée.
Répétez la question, alors, si Evelyne Josselin.
La politique entre le Parti démocrate et le Parti socialiste.
Non, j'ai un peu répondu. Je vous donne un exemple d'entraide, vous voyez, d'entraide. Et puis alors, il ne faut quand même pas oublier une chose. La Commission européenne et toute cette Europe... Que j'aborde de ma part. Eh bien,
ah bon, vous abordez ?
Oui.
Mais vous avez
non,
dit
mais j'adore l'Europe. Je
vous avez
parle
dit
de
nous autres Européens.
Non, je parle de...
J'ai enfin rencontré une Européenne.
Oui, mais
moi, je...
quand je parle des Européens, je ne parle pas de l'Union Européenne. Cette Union Européenne que j'aborde est quand même subventionnée en grande partie par Soros. Il ne faut quand même pas l'oublier. Donc, les passerelles entre la gauche américaine et la gauche européenne, donc de l'Union Européenne, elles sont nombreuses.
Il y a une convergence idéologique très forte.
Bien sûr.
Rappelons au passage, d'ailleurs, vous y avez fait allusion, chère Evelyne Josselin, le fait que ce qu'on appelle aux États-Unis la French Theory, c'est-à-dire la théorie française, a alimenté la pensée de la gauche américaine, hein, y compris la théorie des genres qui est issue de certains penseurs français, si on appelle ça des penseurs, enfin des penseurs cosmopolites français depuis... Depuis Simone de Beauvoir qui disait « on ne naît pas femme du verbe naître, on le devient ».
Ah bah, culturellement, les liens entre la gauche américaine et la gauche européenne, ils sont multiples. Ils sont tous dans mon livre. Ça, c'est... Alors là, véritablement, il y a une toile.
Mais il faut distinguer deux choses. Le fait que les convictions sont les mêmes et le fait probable, et même certain, qu'il y a des liens plus ou moins cachés ou plus ou moins officiels entre les organisations américaines et les organisations... française ou d'Europe, mais je voudrais quand même réagir sur la question de l'Europe. Je paraphrase souvent une formule de Joseph de Maistre et je dis, j'ai déjà rencontré un Français, un Italien, un Russe, mais l'Européen s'il existe, c'est à mon insu. Alors je viens avec étonnement de rencontrer une Européenne, je ne savais pas que ça existait. Pour moi, vous êtes une Française.
Vendéenne, Française, Européenne.
Vendéenne, Française, oui.
Voilà. Il y avait une autre chose aussi.
L'Europe n'existe pas. L'Union européenne existe, c'est un machin, mais pas l'Europe.
Je vous prie, messieurs, je vais devoir vous demander de répéter des questions parce qu'il y a un problème avec ces microphones-là. D'abord, je voudrais remercier Calimero Ernest qui nous a fait un don de 2 euros.
Alors, parlez près du micro, non ?
Oui, il y a un problème technique.
Vous voulez parler ici, alors ?
Je viens.
Alors, attendez, mais venez ici, jeune homme, et puis voilà, puis je vais prendre le micro. Ouais. Il marche. Hein.
Bien, donc nous remercions Calimero Ernest qui nous a donné 2 euros.
C'est un bon début.
Une question de Pépé Le Putois : à quel degré les groupes d'influence, il écrit les lobbies, influencent-ils la politique de Trump ?
Pardon, vous voulez moi.
Oui, je répète, à quel degré les groupes de pression ou les groupes d'intérêt influencent-ils la politique de Donald Trump ?
Ah ben c'est plutôt à quel degré les groupes de pression influencent-ils la politique des gauchistes partout ? Ça, je trouve que Trump n'est dépendant d'aucun lobby. Je suis désolée, mais Trump, il a cette qualité, il est milliardaire. Donc comme il est milliardaire, il peut se permettre de dire ce qu'il veut et de faire pas mal de choses qu'il veut aussi. Et surtout... il est indépendant et il n'est attaché à aucune puissance d'argent. Maintenant, quand un milliardaire comme
Je vous arrête.
Mais il est pas,
on n'a pas besoin d'être milliardaire pour être indépendant. Vous et moi, nous sommes indépendants et nous ne sommes pas milliardaires. Enfin, moi, vous peut-être, mais pas moi.
Nous ne sommes pas installés en politique.
Nous faisons des...
Il ne subit aucun chantage, aucun... Il n'y a pas je te donne tant et tu me donneras tant. Il n'y a pas de ça entre Trump et qui que ce soit. Maintenant, tout l'argent que les milliardaires veulent mettre dans ces projets, il est d'accord. Et beaucoup se sont ralliés à lui spontanément, comme vous l'avez vu. Ils ont compris avec l'élection de Trump que les politiques ESG et DEI qui leur étaient imposées étaient suicidaires pour leur balance commerciale. Ils se sont dit, bon, c'est fini, on arrête la casse, et puis maintenant, on revient à la normale. Et ils ont, en plus, donné, dans le trésor de campagne de Trump, beaucoup ont apporté énormément d'argent, et beaucoup d'argent aussi, pour la répatriation des emplois américains partis à l'étranger pour qu'ils reviennent aux États-Unis. Il y a eu 500 milliards de données par je ne sais plus quel milliardaire américain pour favoriser justement les politiques de Trump. Mais Trump n'est pas dépendant.
500 millions, pas 500 milliards.
Milliards.
Ah non, c'est trop ça.
C'est beaucoup.
Non, c'est pas possible. La fortune de Musk, c'est 400 milliards de dollars. Donc,
c'est pas une personne, c'est une société. Une grosse société, j'ai oublié le nom, mais une grosse société. Donc, attention, en Europe, on parle, je voyais l'autre jour Christine Ockrent, elle disait 3 000 milliards de dollars. Ils n'arrivent pas à dire trillions. Mais l'unité supérieure, et depuis Obama, on est passé à l'unité supérieure. Aux États-Unis, c'est courant de parler de trillions. 1 000 milliards, c'est un trillion. Comment est-ce qu'on va l'appeler, nous, en langage français? Est-ce que ça sera un trilliard ou un trillion?
Dans le dictionnaire littéré, le trillion, c'est 1 000 milliards. Il y a un autre sens scientifique, mais
le mot n'est jamais employé.
Littré qui fait la référence 1977, c'est trillion en français, donc c'est millions, milliards, et le trillion c'est 1 000 milliards. Mais on peut aussi dire billion. Billion est aussi dans le dictionnaire littré qui correspond à l'anglais billion.
Américain.
Non, ne parlez pas sans micro. Ne parlez pas sans micro.
Il a une voix qui porte.
Non, ne parle pas sans micro.
Bah, les Anglais parlent aussi, Alan, les Anglais parlent aussi de trillions. Hein, dans la presse anglaise, on le lit. Mais c'est les Européens, il y a une réticence.
Ne parlez pas sans micro. Sans micro. Sans micro. C'est-à-dire sans Macron.
Une question de Piwi. La guerre économique contre le Canada et les projets de subordination encore plus poussés par les États-Unis ne sont-ils pas le meilleur espoir pour une indépendance de nos cousins québécois ?
Oh là là. Alors d'abord, c'est pas une guerre économique. Je l'ai dit tout à l'heure. Trump veut absolument forcer le Canada à assurer une véritable frontière entre les États-Unis et le Canada. Et deuxièmement, il y a une disparité dans les échanges. Trump veut rééquilibrer le marché. Il fait pas la guerre. C'est pas une guerre. Ça, c'est ce qu'on entend dans les rédactions européenne, anglaise ou européenne de n'importe quelle manière. Ce n'est pas, et c'est ce que dit la gauche, mais ce n'est pas la vérité. Et Trump ne le conçoit pas comme tel. Alors, avec les Chinois, oui, ça serait peut-être plutôt une guerre commerciale, parce que les Chinois sont quand même considérés comme une puissance, comme un adversaire, à défaut d'un ennemi, mais un adversaire. Mais le Canada n'est pas considéré comme un adversaire. Donc, il ne s'agit pas de guerre, il s'agit de rétablissement de l'équilibre et de la réciprocité. Une fois de plus. Et quelle était la dernière... Ils ont des drôles de noms, vos auditeurs.
Oui, parfois, les pseudonymes sont un peu déconcertants. La fin de la question, c'était de savoir si ça pouvait favoriser l'indépendance du Québec.
Du Québec, ah ben ça, j'en sais rien. Personne n'a reparlé de ça depuis le général de Gaulle et son Québec libre.
Vive le Québec libre !
Non, ça, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est qu'il y a un ADN politique canadien qui est plus à gauche que conservateur, ça, c'est sûr. Et c'est un petit peu inquiétant. Mais non. Non, je ne pense pas qu'il y ait de... Non, je crois que non. Et je ne vois pas du tout le Canada comme un 50e...
Malheureusement, les choses ont beaucoup changé. Autrefois, à la bonne époque, les Québécoises faisaient 10 enfants par femme. Elles étaient catholiques, elles allaient à la messe. Maintenant, c'est la décadence complète. Elles font un enfant et demi. Hein.
Moi, je suis complètement contre cette idée de dire tant d'enfants par femme. Je suis désolée, la femme, elle n'a pas fait ça toute seule. Donc, c'est par couple. C'est par couple. Et ça, je trouve que vraiment, les économistes, ils devraient changer leur vocabulaire parce que c'est insultant pour nous, les femmes, de s'entendre dire qu'on fait 0,1 ou...
Ça s'appelle l'indice de fécondité. Moi, j'ai rien inventé.
Et c'est pas qu'une question économique. Je pense que s'il y avait moins d'impôts, et si les femmes n'étaient pas absolument obligées d'avoir un travail, si on tolérait les femmes au foyer, comme c'était souvent, eh ben, il y aurait
attendez, la question se poserait même pas. N'oubliez pas que dans certains pays, il y a la polygamie, et donc le même homme peut avoir des enfants avec plusieurs femmes. Hein, donc prendre comme indice de fécondité le nombre d'enfants que font chaque femme, c'est assez scientifique. Hein. Et c'est ce que retiennent tous les démographes.
C'est pas humain. Comment il s'appelle celui-là ?
Alors, celui-là, on va devoir vous expliquer le jeu de mots. Il s'appelle Up in the Sky, donc haut dans le ciel.
Ça va, j'avais compris.
Oui, vous avez compris, mais c'est une.
Sauf que je crains que Up in the Sky se trompe sur le mot. C'est Sky, my husband. Le mot ciel en anglais veut dire. Se dit sky pour le firmament ou ciel pour le paradis. Et donc, c'est up
ça, in... ça peut aussi être après une prise de
d'accord.
cocaïne.
D'accord.
Ou autre.
Il vous demande, vous avez déjà en partie répondu, vos prévisions sur l'évolution de la relation d'une part entre Trump et Zelensky et d'autre part entre Trump et Poutine dans les prochains mois.
Alors Trump et Poutine, j'en sais rien, c'est vraiment un point d'interrogation. Moi, je voudrais que Trump soit très très prudent. Pour Zelensky, bah ça y est, on a déjà la réponse. Zelensky s'est aplati et j'espère que la prochaine fois qu'il va aller à la Maison Blanche, il mettra un costume. Et puis alors, c'est très intéressant ce que Trump lui a proposé parce que il faut bien comprendre une chose, c'est que ce qui s'est passé, et moi je déplore ce qui s'est passé pour l'Ukraine, et je plains les Ukrainiens d'être obligés je comprends qu'ils ne veulent pas intégrer la Russie. Ils ont eu le Holodomor il y a 100 ans, il y a 90 ans. Et ils ont subi... comme
alors,
les
là, je vous arrête. Le Holodomor, c'est la faute de l'URSS.
Non.
Et là, les 3 quarts ou les 9 dixièmes des dirigeants des organisations terroristes... ou de répression soviétique, étaient des Juifs, c'était pas des Russes. Hein. Et l'initiateur de l'Holodomor, c'était Kaganovich, Lazar Kaganovich, qui était juif, qui était le bras droit de Staline, qui était géorgien, jusqu'à la mort de Staline en 1953. Donc il faut pas accuser les Russes de l'Holodomor. Là, c'est vraiment faux. Ils n'y sont pour rien. Enfin, ils n'y sont pour rien. Il y avait des Russes aussi parmi... Il y avait aussi des Ukrainiens.
Pour en revenir à Zelensky, c'est terrible ce qui se passe pour l'Ukraine parce que c'est la faute n'est pas aux Ukrainiens, la faute elle est vraiment à l'extérieur. Je vous l'ai dit, il y a eu le traité le mémorandum de Budapest en 1994, Clinton l'a signé et juste après il a dit ah on n'aurait peut-être pas dû quand même signer ça parce que ça va être difficile à tenir. Il en a convenu Clinton quand même. Plus tard, après, il y a eu... Poutine a donné des signes très, très vite de vouloir réintégrer tous les territoires que l'URSS avait possédé autrefois ou les tsars. Bon. Et en 2014, Obama a laissé faire la prise de la Crimée, rappelez-vous. Mais c'était l'idole, attention, il ne fallait pas dire de mal d'Obama. Et donc, si Obama ne disait rien, ben, nous autres Européens, ben, ça tombait bien, on n'allait rien dire non plus. De toute façon, on est lâches, et puis on ne veut pas débourser un sou, donc on n'allait rien faire. Donc, première chose. Après, pendant Trump, le Trump 45, il ne s'est rien passé. Et puis après arrive Biden. Alors là, bon, la débâcle de l'Afghanistan qui disait, voilà, maintenant l'Amérique, elle est bonne à rien, se défendra pas. Et puis Biden a pas prêté. Justement, les Européens ont prêté, eux, et ils ont donné davantage d'argent à Poutine pour le gaz. Ils ont continué à acheter le gaz de Poutine, tout pareil. Donc, en fait, tout le monde est coupable. Tout le monde est coupable de ce qui se passe maintenant. Et Zelensky, moi, j'en suis très triste pour lui. Et peut-être que c'était un clown, mais il a quand même eu aussi... Il a quand même été courageux au début et il a quand même fait des bonnes choses pour son pays. Donc, il faut voir les deux côtés.
Zelensky n'a fait que des mauvaises choses.
Non.
Sans lui, la guerre n'aurait pas eu lieu.
Non, c'est incroyable que vous disiez cela.
Je le démontre. Lorsque la Russie, en 2022, amassait ses troupes à la frontière, elle avait des conditions très claires qu'elle posait. Elle voulait premièrement que l'Ukraine reconnût l'annexion de la Crimée par la Russie, ce qui était normal, puisque la Crimée avait toujours été russe, et elle avait été rattachée administrativement par Khrouchtchev en 1955, je crois,
d'un coup de canif, parce que c'était à l'intérieur de l'URSS. Deuxièmement, que l'Ukraine s'engagea à ne pas entrer dans l'OTAN, ce qui était aussi logique. Et troisièmement, que les accords de Minsk de 2014 et 2015 fussent respectés, ce que l'Ukraine n'a pas respecté. Si Zelensky avait accepté ces trois conditions, il n'y aurait pas eu de guerre et il n'y aurait pas eu ces centaines de milliers de tués ou de blessés.
Bon, je ne suis évidemment pas d'accord du tout avec ça.
Que pouvez-vous contester là,
pour répondre à votre interrogateur jusqu'au bout, le fait est que... Et Zelensky, c'est pas de sa faute. De ce point de vue-là, il a peut-être même envoyé trop de gens se faire tuer, mais il a au moins essayé de résister. Et donc, il se trouve maintenant qu'à cause d'alliés félons, comme l'Union européenne, qui part devant, dit « Oh, comme c'est mal ce que fait Poutine », et qui part derrière, continue de lui acheter son gaz, à cause de gens comme Biden, qui envoie de l'aide sans compter, sans faire d'audit, et c'est normal que l'opinion américaine s'en émeuve au bout d'un moment, puisqu'il n'y a jamais eu d'audit, et qu'en plus, ça aurait payé les salaires de l'administration ukrainienne. Bon, tout ça, c'est un micmac épouvantable. Et donc, Zelensky est obligé de se rendre compte maintenant qu'il ne va pas récupérer son territoire en entier. Il est amputé de 20% de son territoire. Et c'est ou faire un marché... sur les minerais avec l'Amérique, c'est vraiment la meilleure porte de sortie pour lui, parce qu'il garde au moins 80% de son Ukraine, avec un petit bout de mer quand même, Odessa n'a pas encore été prise, et puis, mais pour combien de temps, on n'en sait rien, et puis surtout, présence américaine sur son sol. Et c'est ce qu'il n'a pas compris l'autre jour à la Maison Blanche. Et ce que les télévisions ne vous ont pas dit, c'est que quand on voit cette scène où véritablement on se dit, quand même, Trump et Vance, ils ont été vaches avec Zelensky, comment ils le traitent, le pauvre bougre. Mais ils avaient raison dans un sens, moi j'ai pas aimé non plus comment il était traité. Mais il faut savoir ce qui s'est passé avant. Les 40 premières minutes, elles sont jamais filmées. Or, pendant les premières 40 minutes, Zelensky, il a fait tout le contraire de ce que le sénateur Lindsey Graham, qui est un ex-néoconservateur, mais qui est réaliste en même temps, lui avait dit, voilà, maintenant on vous a trouvé la meilleure sortie possible. C'est une présence américaine civile sur votre sol. Attention, Poutine, il ne va pas vous attaquer comme ça. Il va faire attention à ce qu'il fait. Donc, vous avez intérêt à être content, puis vous allez dire oui. Et puis, Zelensky a fait tout le contraire. Alors, qu'est-ce qu'il a... Il a dû écouter d'autres personnes aussi. Il a dû écouter l'ancienne administration Biden, enfin, ou le marécage, l'état profond qui est fait de toutes ces agences scélérates, désormais. Eh bien, il a fait tout le contraire. Il a commencé par dire, voilà, moi, je veux des garanties. Et puis, c'est comme ça. Et donc, c'est ce qui a fait capoter les choses. Donc, Zelensky, maintenant, eh bien, là, on vient d'apprendre hier, hein, vous avez vu la personne qui posait la question doit le savoir aussi, il vient de capituler, de dire, ben, c'est vrai, j'aurais dû, ça me plaît pas, mais j'aurais dû accepter, parce que c'est tout ce que je peux tirer de bon de cette situation. Et malheureusement, cette situation, elle est due à la gauche américaine et elle est due à l'Union européenne. Et à Poutine, bien entendu, qui est l'agresseur, malgré ce qu'Henri...
Dans la lettre qu'il a envoyée, Zelensky dit qu'il accepte, il va se soumettre au leadership du président Trump.
Bah oui.
C'est quand même vraiment... C'est complètement aplati.
Mais il n'a pas le choix.
Ah oui, bien sûr.
Mais ce qu'on ne sait pas... Il n'y a aucune question. Attendez, est-ce que moi, monsieur, je vais vous répondre. Il y a la grosse inconnue. On ne sait pas ce que Poutine pense de tout ça. Est-ce que Poutine, ça va lui plaire, lui, qui est des... Attention, des entreprises américaines, ça veut dire des ingénieurs, ça veut dire beaucoup d'infrastructures américaines, ça veut dire pas de militaires, certes, mais des cadres, ça veut dire quand même une présence telle que, tout près de lui, il ne voulait pas de l'OTAN, mais là, est-ce que ça va lui plaire mieux? C'est pas sûr. D'ailleurs, on ne connaît pas sa réponse. On ne sait rien. On ne sait rien depuis vendredi dernier. On ne sait rien de ce que pense Poutine.
Si. Je crois que c'est le porte-parole ou les collaborateurs du président Poutine ont dit... On dit, mais pourquoi pas aussi un accord pour sur les terres rares qui sont dans le Donbass que nous détenons.
Ils sont déjà en train de piller le Donbass. Mais vous imaginez le voisinage? À côté, il y aura... Enfin, je sais pas, moi, je l'avais mis dans mon dernier article, l'atmosphère, parce que il y aurait d'un côté donc les, comment on dit, contractors en français, les entreprises sous contrat, chargé de l'exploitation minière de ces métaux rares. Et puis juste à côté, à quelques kilomètres plus loin, parce que c'est plus l'Amérique, c'est l'Ukraine, c'est grand l'Ukraine, mais c'est pas aussi grand que l'Amérique. Dans les provinces à côté, il y aura les Russes qui feront la même chose, mais en bien moins bien, parce qu'eux, ils le feront en pillant la planète. C'est-à-dire, comme ils font en Afrique déjà, ils font pas attention du tout aux questions environnementales. Et en même temps que l'Amérique, pas militaire mais civile, serait en Ukraine, à sauver les 4/5 qui peuvent encore l'être, eh bien, la reconstruction se ferait peu à peu. La reconstruction du pays qui est quand même complètement dévastée. Et puis en même temps, ça donnerait... c'est vraiment tout ce qu'on peut tirer de cette situation qui est épouvantable.
Poutine a fait une blague.
Non, je vous ai dit de ne pas...
Oui, posez votre question, je tâcherai de la répéter pour les auditeurs.
Vous avez raison, mais c'est...
Poutine a fait une blague, il a dit aux Américains, venez chez nous, on a plus de minéraux que les Ukrainiens.
Oui, c'est ce que je dis.
Oui, Poutine a fait une blague en disant aux Américains de venir chez lui, parce qu'il avait plus de minéraux que les Ukrainiens, ça rejoint un peu ce que nous disions.
Oui, ben ça, je ne sais pas si Trump a envie d'aller... faire forer, c'est invraisemblable, ça se peut pas. Oui, je pense que oui. Mais remarquez, c'est une bonne question quand même, parce que c'est une très bonne question, parce que Poutine, les admirateurs de Poutine, moi j'arrive pas à comprendre. Il a 11 fuseaux horaires. Il a sur ces 11 fuseaux horaires, il en a plein des minerais rares. Qu'est-ce qu'il en fait? Il n'en fait rien. Il faut que l'idée lui vienne par quelqu'un d'autre. Vous voyez ? Qu'est-ce qu'il a fait depuis 20 ans qu'il est au pouvoir pour son pays ? Qu'est-ce qu'il a fait pour sa Russie ? Ben moi, je ne trouve pas. En tout cas, économiquement, non. Monsieur,
vous voulez que je répète ou vous voulez...
Je voulais simplement, faire un petit peu un retour en arrière. En fin de compte, on parle beaucoup mais en fin de compte, il a été quand même, soutenu par, une idéologie. C'est-à-dire les bandéristes. Et je crois que, mettons, finalement, il a été contraint d'avancer, sinon, s'il avait contré un peu cette idéologie, ben, il aurait perdu la vie. Et aujourd'hui, je crois que ce n'est pas Zelensky qui commande, c'est les bandéristes.
Alors, la question de monsieur, c'est que Zelensky aurait été contraint de suivre les mondialistes, c'est-à-dire les cosmopolites qui lui ont imposé sa politique. Je peux répondre à votre place, déjà. Si, c'est ça. Je peux répondre. Des bandéristes. Les néo-nazis, Non, mais ça, il y a aussi les néo-nazis, effectivement, qui existent. Ça s'appelle les admirateurs de Bandera. Alors, c'est effectivement, je n'ai pas compris la question. Que pensez-vous de l'influence?
Il n'y a pas, des nazis. Moi, je parle tout le contraire.
Oui, bien sûr qu'il y en a.
D'ailleurs, quand tu avais les défilés, comme, dans les pays baltes, je ne vais pas me dire, avec tous les.
Oui, alors, ils sont peut-être peu nombreux, mais est-ce que par leur méthode violente, ils peuvent exercer une pression par la peur, par exemple, des assassinats politiques sur des groupes nationalistes
Moi, je ne connais rien là-dessus. Rien, ce n'est pas du tout mon domaine.
Je peux en dire un mot, si vous voulez. La spécialité des nationalistes plus ou moins néo-nazis, enfin bandéristes ukrainiens, c'est l'assassinat politique. Ce que ne font pas, si vous regardez ce que fait Al-Qaïda ou Daesh, beaucoup d'assassinats, mais pas politiques. On ne peut pas dire que l'assassinat des gens de Charlie Hebdo, c'était politique, c'était religieux. Alors que depuis l'entre-deux-guerres, c'est Bandera, qui dirigeait un parti nationaliste ukrainien, dans l'Ouest, en Galicie et en Volhynie, qui appartenait à l'époque à la Pologne, pratiquait l'assassinat politique des ministres ou des dirigeants polonais. Pardon ?
Même en Hongrie.
Non, je crois que c'est uniquement en Pologne. Bon, en tout cas, donc voilà. Lorsque il y a eu un début de négociation pour arrêter la guerre à Istanbul, c'était en 2022, lorsque l'un des négociateurs qui est revenu a été assassiné. Alors évidemment, ça a fait réfléchir les autres. De fait, les négociations n'ont pas abouti.
Il y avait une question
Oui, monsieur, posez votre question, j'essaierai de la répéter pour les auditeurs.
Ah oui.
concernant la permanence de l'Amérique, des États-Unis, dans l'OTAN, est-ce que Mme Jocelyn pense qu'il y a un risque sérieux que les États-Unis quittent l'OTAN et dans ce cas-là, la défense de l'Europe, le parapluie nucléaire américain pourrait être remplacé par l'association des moyens français et britanniques.
Alors je vais reformuler la question. Donc monsieur demande s'il y a un espoir que l'Amérique quitte l'OTAN. Et dans ce cas-là, ce que se passerait-il? Est-ce que le parapluie nucléaire français pourrait être étendu à tous les pays de l'Europe occidentale?
Alors déjà, un espoir, le mot n'est pas bon. Vous l'avez fait exprès.
J'ai fait exprès.
C'est pas du tout ce que la question...
Je l'ai fait exprès. Monsieur avait dit le risque. J'avoue mon forfait, j'ai transformé le risque en espoir.
Bah, évidemment, mais ça ne marche pas. Et donc, je pense que c'est une excellente question. C'est une excellente question, c'est même une question cruciale. Et toutes les rédactions de télévision française, là, oh, il va quitter l'OTAN, c'est terrible, etc., etc. Quel mauvais allié.
Ce serait merveilleux.
Et encore, c'est l'inversion de la. C'est eux les mauvais alliés, les Européens. Et Trump a déjà fait beaucoup pour l'OTAN. Il a obligé les Européens à hausser leurs cotisations. Et ils n'arrivent même pas à dépasser 3%. Il faut faire du social. Eh bien non, maintenant, là, ils sont mis devant les réalités. Et qui est-ce qui croit que l'Union européenne va défendre l'Ukraine ?
Attendez.
La question était très importante. Il ne faut pas l'éluder. Il y avait hier un petit dessin animé, un cartoon, un dessin rigolo, qui circulait sur Internet, qui représentait un char. Et le char était habillé des couleurs arc-en-ciel, donc LGBTQQQ+++, branché sur une prise électrique, bien sûr, et avec le drapeau, le stupide drapeau européen avec ses étoiles. Et il y avait la devise, la petite légende en dessous, c'était « Attention, l'Europe est prête à l'attaque ». Bon, et ben voilà, c'est ça l'Europe. Donc ça répond à la question d'Alan de St. John Price. L'Union européenne... C'est la grenouille qui veut se faire plus grosse que le bœuf. En matière de défense, plus que dans tous les autres domaines, elle est minable. Bon. Elle l'a prouvé, elle le reprouve encore, et elle n'arrivera à rien.
Evelyne Jocelyn, je voudrais rappeler que l'OTAN, l'Alliance Atlantique, ont été créés face à l'URSS pendant la guerre froide pour faire échec au communisme de l'URSS. Lorsque l'URSS s'est effondré en 1991, lorsque le pacte de Varsovie a disparu, la logique aurait voulu que l'OTAN disparût. Et l'OTAN était maintenue comme, il faut bien le dire, comme arme de l'impérialisme américain.
C'est pas vrai.
Et l'OTAN aurait dû être dissoute. Et bien entendu, à mon avis, à mon humble avis, pour les nationaux libéraux que nous sommes, la France devrait commencer par sortir de l'OTAN.
Eh bien, certainement pas. Et alors... Je pense que Trump ne va pas sortir de l'OTAN. Mais attendez, votre question était très très bonne, parce qu'en même temps, ça me permet de répondre à autre chose que je n'avais pas soulevé. Trump est déjà sorti de l'Organisation mondiale de la santé. Formidable. L'ONU, des accords de Paris, bien entendu. L'ONU, il en est question. Trump avait déjà laissé flotter l'idée pendant son premier mandat, et ça nous coûte très très cher, là. Il y a tout un pâté à New York qui serait mieux employé. Question immobilière, ça serait nettement mieux employé que d'être à cette usine à Barlotte. Et donc, bref, toutes ces organisations internationales, Trump les remet en question. C'est l'état profond mondial. Trump les remet en question. Mais l'OTAN, je suis désolée, l'OTAN fait... C'est une exception dans ces organisations internationales. L'OTAN n'est pas encore corrompue, comme toutes les autres. L'OTAN n'est pas encore, comme Margaret Thatcher avait remarqué, n'a pas encore viré complètement à gauche. Certes, l'OTAN a dévié un peu de sa trajectoire. Et malheureusement, l'Union européenne pervertit l'OTAN. Mais l'OTAN nous a rendu d'incroyables services sans l'OTAN, là, pendant les 60 dernières... J'aimerais
savoir lesquels. Alors.
C'est pas l'Union européenne qui nous a empêchés. S'il n'y avait pas eu l'OTAN, on parlerait russe aujourd'hui. S'il n'y avait pas eu l'Amérique en 1944, on parlerait allemand. Et puis après, s'il n'y avait pas eu l'OTAN pendant des décennies...
Nous parlons de la fonction de l'OTAN depuis 1991, c'est ça le sujet.
Non, mais vous n'avez pas raison, parce que le danger n'était pas écarté comme la suite l'a prouvé. Et heureusement...
La suite n'a rien prouvé du tout. La Russie a attaqué l'Ukraine, mais la Russie ne menace absolument pas la France.
Non, mais vous êtes omnibulé par une position gaulliste.
Oui.
Et vous ne faites pas l'analyse de ce que l'OTAN a fait pour l'Europe, y compris la France.
Avant ou après 1991 Avant 1991, De Gaulle n'a pas quitté. De Gaulle n'a pas quitté l'Alliance Atlantique. Hein. Il a quitté le commandement intégré.
Non, mais c'était quand même honteux.
C'était légitime et nécessaire.
Cyrus Vance, à l'époque, l'avait demandé, mais mon général, avec ou sans les soldats tués américains? Et là, on ne connaît pas la réponse à la question. Mais franchement.
Et les soldats russes tués aussi.
Écoutez, il y a beaucoup de soldats russes.
Ils ont défendu leur pays.
Beaucoup plus.
Ils ont pas traversé un océan pour venir descendre, pour venir défendre.
Bon, là, c'est le chaos. Nous allons poser... Attendez, silence dans la classe. Nous allons poser une dernière question avant de passer à la dédicace.
Oui, alors le même auditeur de tout à l'heure vous demande ce que vous pensez des entreprises autant européennes qu'américaines qui se sont grandement appauvries en se privant du marché russe depuis le début de la guerre. Et un autre demandait pourquoi ne voulez-vous donc pas que nous achetions du gaz russe, ou voulez-vous que nous l'achetions sinon? Et pourquoi s'imposer de se priver d'un gaz bon marché alors que nous n'avons pas besoin de le faire?
La question, on y répond de soi-même. Il valait mieux. Trump proposait le gaz américain. C'était mieux de le payer un tout petit peu plus cher à un allié véritable et qui, en plus, vous protège depuis des décennies avec son bouclier nucléaire et envoie des troupes puissent faire tuer pour la défense de la démocratie dans le monde, alors que pas vous. Et puis, plutôt que d'acheter à la Russie, sans gaz. Enfin, franchement, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Je ne comprends même pas comment on peut poser cette question. À moins d'être complètement pro-russe, comme est Henri.
Non, mais je ne suis pas pro-russe. Moi, je suis pour le beau, le bien et le vrai. Je suis pour le bien et le vrai. Et je ne vois pas pourquoi il faudrait payer le gaz plus cher, alors que les Russes proposent... La France aurait dû rester neutre. Je ne dis pas que la France aurait dû soutenir l'Ukraine, je dis que la France devait rester neutre.
Écoutez, on a le meilleur des deux mondes, puisque l'Union européenne fait semblant par devant de ne pas acheter le gaz à la Russie, mais elle lui achète quand même un peu plus cher par pays interposés. Alors tout le monde...
Elle pourra avoir le gaz russe par le gazoduc, ça coûterait moins cher.
Elle pourrait aussi l'avoir par elle-même.
On a du gaz naturel liquéfié. Il faut d'abord le liquéfier, puis le transporter par bateau et ensuite le regazéifier, ce qui n'est pas un procédé extrêmement économique. C'est beaucoup plus cher. Bien, alors nous avons... C'est ce que je viens de dire, oui, mais ça coûte plus cher. C'est plus cher. Il faut le gazéifier, puis il faut le liquéfier et ensuite le regazéifier. Donc les deux opérations coûtent de l'argent et de l'énergie. C'est plus économique par gazoduc. Bon, donc voilà, nous avons fini cette discussion. Nous allons maintenant passer à la séance du débat libre hors antenne. À moins qu'il y ait une dernière question. Allez-y, je vais répéter. Votre question. Pardon, vous êtes... Vous êtes tchèque ou slovaque? Êtes-vous tchèque ou slovaque?
Il n'y a personne en Tchécoslovaquie ou en Europe de l'Est qui pense que les Russes ont libéré l'Europe. D'accord? Ils ont vécu 40 ans sous l'armée rouge et il n'y a aucun qui dise que. Ce sont les Russes qui ont libéré l'Europe. D'accord?
Alors, si vous voulez, non, plus sérieusement, l'URSS est un pays collectiviste et tyrannique, qui n'était pas spécialement russe, contrairement à ce qu'on croit, puisqu'il n'était pas dirigé uniquement par des Russes, et en tout cas jusqu'en 1953, il n'était pas dirigé par des Russes. Hein. Staline était géorgien, Kaganovitch était juif, et ainsi de suite. Bon, Beria était géorgien, Molotov était russe, vous avez raison, mais il avait épousé une juive. Hein. donc, Ce qui est sûr, c'est que l'URSS est la première responsable de l'effondrement final de l'armée hitlérienne, et que des millions et des millions de Soviétiques, notamment des Russes, sont morts dans cette guerre. Voilà. Et que certes, ensuite...
Avec des armes américaines, ensuite, et puis après un débarquement quand même qui avait drôlement impulsé les choses.
L'effort principal militaire qui a fait la chute de l'Allemagne a été fait par l'URSS, je crois que c'est historiquement incontestable.
je conteste.
Et alors évidemment, les pays d'Europe de l'Est qui ont été soumis à la botte soviétique n'ont pas bénéficié de la moindre libération, je suis bien d'accord avec vous, malheureusement pour eux. Mais les pays d'Europe de l'Ouest qui étaient au-delà du rideau de fer, eux, ont profité de cet effondrement. Grâce à l'URSS, indirectement, ils ont échappé à la tyrannie hitlérienne.
Voilà. J'ai l'historien Anthony Bivor qui a été étudié à Moscou, il a dit l'idée de Staline en 1944, c'est que l'Europe, l'armée rouge devait aller jusqu'à l'Atlantique.
Oui, mais tout le monde le sait, vous n'avez pas besoin de citer un historien. Mais vous n'avez pas besoin de citer un historien en particulier, tout le monde sait que le communisme voulait... Monsieur, le communisme voulait conquérir le monde, donc évidemment c'était bien le projet, nous sommes bien d'accord, mais ça, la guerre, nous savons ce que c'est que la guerre froide, là vous enfoncez les portes ouvertes. Bon, maintenant...
Comme si aujourd'hui la Chine veut également conquérir le monde d'une manière
indirecte.
Je ne sais pas comment vous appelez les...
Cosmopolitisme.
La Chine est très, très cosmopolite, et puis la Russie...
Non, elle est impérialiste,
Ils sont infiltrés un petit peu partout, hein, dans le monde entier.
Alors, avant de finir, je voudrais quand même faire une plaisanterie sur le Groenland. Je trouve ça très bien. Moi, je trouve le projet d'annexion du Groenland par les États-Unis me paraît tout à fait justifié. Les États-Unis d'Amérique ont acheté... la Louisiane à la France. La Louisiane, à l'époque, c'était 3,5 millions de km², hein, en 1803. L'Alaska à la Russie vers 1865. Je ne vois pas pourquoi les États-Unis n'achèteraient pas aujourd'hui le Groenland au Danemark. Sachant que Groenland, c'est un mot danois ou norvégien, les deux langues sont les mêmes, qui veut dire terre verte, comme Greenland en anglais. Donc, puisqu'on dit terre neuve pour Newfoundland, je propose de dire terre verte pour le Groenland, ce qui embêterait les climato-maniaques, puisque ça rappellerait qu'en l'an 1000, lorsque les Norvégiens ont découvert ce pays, ils l'ont appelé Terre Verte. Les Vikings norvégiens ont découvert cette terre, ils l'ont appelé Terre Verte, parce qu'à l'époque, il faisait plus chaud en l'an 1000 qu'aujourd'hui. Voilà. C'est une vérité que les climato-maniaques ont oubliée. Merci donc. Merci encore beaucoup à Evelyne Josselin. Nous allons arrêter là la transmission en ligne, cher Pierre de Tirmont. Merci beaucoup. N'oubliez pas de commander, ceux qui sont en ligne, le livre, on le trouve sur Amazon, je pense. Hein.
Oh, je pense que oui.
Le livre de...
Dans les librairies, il faut le demander. Hein,
si Evelyne Josselin, La guerre culturelle aux éditions de La Délivrance. Le camarade de Maurice Seclin ici présent a dit que c'était un livre érudit et magistral. Je dirais que c'est un livre prophétique en plus. Non, mais là vous verrez toute la science d'Evelyne Josselin, et vous apprendrez énormément de choses. C'est tout à fait passionnant, c'est un livre lecture indispensable. Et pour ceux qui sont dans la salle, eh bien vous pouvez vous le procurer pour la modique somme de 23 euros, et la dédicace sera gratuite.